Le Seigneur est présent parmi nous, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Que son amour nous habite, que sa présence nous éclaire, que sa parole nous fortifie. Je vous invite à vous lever. Ô Dieu qui nous soutient, nous encourage et nous donne la paix, sois au milieu de nous. Amen. Et je vous invite à chanter dans le petit livret qui est au début du livre de chants, le premier cantique, c'est-à-dire « Nous voici rassemblés en ton nom ». Notre louange se trouve dans le livre des psaumes, c'est le 27e selon la numérotation protestante et le 26e selon la numérotation catholique. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est le rempart de ma vie, de qui aurais-je crainte? J'ai demandé au Seigneur la seule chose que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort, prends courage. Espérez le Seigneur. Et nous chantons le psaume 36. Vous trouverez page 60. Le psaume 36, c'est ça. Page 60, ô Seigneur, ta fidélité.
Seigneur, ta fidélité, dépasse toute cible. Ta justice est pareille au monde, plus profond que le plus grand abîme. De la puissance du néant, de sauver tous les vivants, toute chair, toute race, les hommes se rassembleront.
Dans ta demeure, nuit et jour, la table est tout.
source de vie est en toi. Par ta lumière, l'homme voit triompher la lumière. Maintiens ta grâce aux hommes droits, donne à celui qui vient vers toi l'appui de ta justice. Garde-moi de tomber aux mains de ces méchants, de ces hautains, de peur que je faiblisse, car ils voudraient chasser les tiens, les séparer de leur soutien, de leur seule assurance. Tu les as renversés, ils ne pourront se relever. Gloire à ta délivrance.
Prenez place. Alors, c'est un culte un peu particulier aujourd'hui, pas seulement parce que j'ai mis ma robe, mais c'est lié. Nous avons la joie, le plaisir, l'honneur et tout ce qui nous viendra d'accueillir des membres de la paroisse. Alors, ce n'est pas le nom de la paroisse, mais enfin, oui, alors, donc vous êtes, c'est l'ecclésiole, je ne sais pas comment vous dites.
C'est la paroisse Saint-Marc de Parmelan.
Saint-Marc de Parmelan, mais vous êtes de Cuvat, en gros. Voilà, vous êtes le groupe, je ne sais pas comment on l'appelle.
De Cuvat.
Alors, l'église de Cuvat. Alors, bienvenue à vous. Vous êtes accompagné du diacre Michel Henry. Bienvenue à vous. Vraiment, pour nous, c'est un plaisir. Il faudra qu'on fasse une photo avec le blanc et l'homme en blanc et l'homme en noir. Voilà. Nous avons commencé donc ce culte par un psaume de la Réforme. C'est vraiment une marque identitaire. Un peu de traditionnel. Alors, elle se perd un peu, malheureusement. Mais pendant des siècles, on dit, quand quelqu'un était protestant, on disait « Ah, lui, il chante les psaumes. » Donc, c'est une tradition. Voilà. Nous allons poursuivre un culte. Alors, c'est un culte aujourd'hui sans Sainte-Seine, sans Eucharistie. Je crois que ça a rangé un peu... Marie-Françoise, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un culte sur deux, avec scène ou sans Sainte-Seine. Alors pourquoi pas tous les dimanches? C'est une très bonne question. On vous expliquera toutes sortes de choses, mais la vraie réponse, vous ne la répéterez pas, hein, la vraie réponse c'est « parce que ça ferait catholique ». Oui, on en est là, on en est encore là. Mais voilà. Oui, quelqu'un disait, oui, mais c'est pour montrer que ce n'est pas le centre du culte, que ce n'est pas essentiel au culte. Oui, mais les chants non plus, personne ne ferait un culte sans chants. Voilà. Alors, vous verrez que le déroulement, par ailleurs, ressemble beaucoup à celui d'une messe, sauf que, alors là, vous ne verrez pas avec l'Eucharistie, mais sauf que c'est les accents qui ne sont pas les mêmes. On met plus de temps sur la prédication et un peu moins sur la scène. Alors, je nous ai un peu présenté, mais c'est à vous de vous présenter maintenant.
Bon, ben, c'est avec beaucoup de plaisir aussi qu'on est ici. Et justement, on vient de chanter « Les hommes se rassembleront autour de toi, ils trouveront leur paix devant ta face ». Ben voilà, on commence. On est déjà plusieurs, différents, autour de toi. Et donc, cette histoire, elle a commencé il y a 3 ans, quand une protestante et une catholique se sont rencontrées sur le parvis de l'église de Cuvat. C'était en fait Andrea et c'était Catherine Folgoas, qui est notre sacristine, qui s'occupe de l'église de Cuvat. Et elles se sont rencontrées et Et Andrea a dit, ah ben, moi je joue de l'orgue. Catherine a dit, bah, c'est bien, nous on a un orgue. Et voilà, de temps en temps, bah, Andrea, occasionnellement, nous donne un petit coup de main. Hein, parce qu'on a l'orgue, des fois, qui n'est pas utilisé. Voilà, donc nous sommes venus depuis Saint-Marc-du-Parmelan, qui est donc notre paroisse qui rassemble Pringy, Villaz, Argonnet, Cuvat et Naves. Et comme nous avons été heureux de vous accueillir à la messe du 18 janvier avec votre pasteur, Vincent, un petit groupe de vos fidèles dans le cadre de la Semaine de l'Unité. Voilà, vous êtes venus donc le 18 janvier. Et à notre tour, avec notre diacre, Michel Henry, nous venons prier et chanter avec vous dans votre temple pour faire exister ce rapprochement des chrétiens. Ce rapprochement est d'ailleurs tangible toute l'année à Cuvat où Andrea vient jouer de l'orgue de temps en temps, mais aussi dans les groupes de partage de la parole. Donc ça fait 3 ans déjà qu'on a des groupes de partage de la parole qui sont aussi avec des protestants. Donc c'est intéressant de le savoir. Nous sommes tous invités chaleureusement dans ces groupes. Donc merci à Catherine qui a initié ce projet dans notre église et à Andrea qui a porté ce rapprochement. À noter que chaque semaine, il y a différentes activités ou réunions qui peuvent intéresser tout chrétien, comme les activités spéciales jeunes ou familles, les rencontres en traite deuil ou le chant en chorale. Pour terminer, je voudrais vous informer que nous tenons un café du curé ouvert à tous, croyants ou non, le samedi matin entre 10h et 12h. Ça s'appelle le thé au café, à la maison paroissiale de Pringy. On y discute, on partage des infos et vous serez bien reçus. Voilà.
L'amour de Dieu est grâce, il est donné sans condition, mais non sans exigence. Lorsque l'apôtre Paul écrit sa lettre aux Philippiens, il est en prison. Après avoir évoqué les conditions de son incarcération, il exhorte les chrétiens à vivre selon l'Évangile. S'il y a donc un appel en Christ, un encouragement dans l'amour, une communion de l'esprit, un élan d'affection et de compassion, alors comblez ma joie en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, recherchez l'unité. Ne faites rien par rivalité, rien par vaine gloire, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. Et nous chantons Jésus le Christ, lumière intérieure. Nous prions. Nous confessons devant toi notre manque d'unité. Nous n'avons ni un même amour, ni une même pensée. En nous cohabitent rivalité et orgueil quand tu nous appelles à l'humilité, à l'accueil. Délivre-nous, Seigneur. Nous te remettons nos peurs et toutes nos craintes, nos erreurs et nos plaintes, nos vices et notre cupidité, nos injustices, notre lâcheté. Délivre-nous, Seigneur. Oui, nous sommes enchaînés, prisonniers de nous-mêmes. Pétrifiés, nous nous refermons sur nos problèmes. Nous nous sommes abîmés dans nos hésitations. Nous nous sommes enfermés dans nos condamnations. Délivre-nous, Seigneur. Maintenant, apprends-nous à nous tourner vers toi, à nous mettre patiemment à l'écoute de ta foi. Que l'amour et la vie de ton Fils Jésus-Christ renouvellent notre cœur et transforment notre vie. tu consoles, tu pardonnes. Cantique. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'un serviteur, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Si par son humilité, Jésus est sauveur, s'il s'est dépouillé pour devenir serviteur, c'est pour nous montrer que son pardon est plus fort que nos oublis, nos fautes, nos ténèbres et nos morts. Dieu nous pardonne et nous accueille dans le Christ Jésus. Amen. Transmet la nouvelle. Prenez place. Deux lectures bibliques pour ce jour. Alors, la première, je ne sais pas dans quel ordre je vous ai mis, mais la première, normalement, c'est l'Évangile selon Luc, chapitre 12. Et la seconde sera dans l'épître, la première épître aux Corinthiens. C'est principalement sur cette dernière que portera la prédication. Mais avant de lire, nous prions. Parfois joyeuse, parfois inquiétante, parfois muette, parfois incompréhensible, parfois limpide, la parole de Dieu nous parvient à nos oreilles. Permets, Seigneur, qu'elle se glisse comme une eau rafraîchissante dans nos failles et nous interstisse pour toucher nos êtres. Amen.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?»
Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. je veux vous dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié par vous ? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé ? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu.
Entends la voix de Dieu.
Prenez place. Je vous encourage, mes frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tous tenir le même langage, qu'il n'y ait parmi vous pas de division. Soyez unis dans la même pensée et dans le même dessein. Belle exhortation pour cette fin de semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Mais de quoi Paul parle-t-il ? Est-il ici question de différentes communautés ecclésiales incapables de travailler ensemble ? C'est peu probable. Paul fait état de l'existence de chapelles à l'intérieur de la communauté. Bien entendu, les deux types de divisions sont intimement liés, les divisions internes étant parfois le premier symptôme menant à la division complète. Paul nous invite à être unis. Il emploie même un verbe qui désigne en premier lieu l'acte d'agencer proprement les éléments d'une machine pour son usage normal. Faut-il alors entendre que Paul exige que chaque chrétien se considère comme un simple rouage d'une machinerie qui le dépasserait ? Ou d'une autre façon, que l'Église soit un groupement de personnes dont on aurait lavé le cerveau pour qu'ils pensent tous de la même manière ? Ce serait bien évidemment mal connaître l'apôtre et l'Évangile que de lui prêter une telle vision. Il est évident, normal, voire souhaitable, que des différences d'opinion existent entre les membres de la communauté, chacun ayant son histoire propre de conversion et de cheminement avec le Christ. Mais s'il n'y a là nul scandale, où se trouve donc la cause de l'intervention de Paul ? Dans l'existence de ces fameuses chapelles, coteries et groupuscules. Quel degré d'hostilité existait-il entre eux ? Il est sans doute impossible de répondre à cette question, mais nous pouvons dire qu'il était assez élevé pour susciter l'inquiétude de Paul, mais pas encore assez pour provoquer l'éclatement de la communauté. Et pourquoi porter ces querelles ? Là encore, il est quasiment impossible d'avoir une certitude. Et je pense que c'est très bien. Ça nous permet d'appliquer cette situation à nous-mêmes. Paul évoque l'esprit de parti, cette volonté de faire partie d'un groupe, de réclamer une supériorité spirituelle, dogmatique et ou morale, grâce à la figure dont il se réclame. J'entends par là que chacun de vous dit « Moi, j'appartiens à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi au Christ. » Je ne puis m'empêcher de penser à une citation de Sébastien Castellion. Alors, pour ceux qui l'ignoreraient, Sébastien Castellion, théologien réformé, fut la voix qui s'éleva pour dénoncer le supplice de Michel Servet, condamné à mort pour hérésie, tant par les protestants, qui se chargèrent de l'exécution, que par les catholiques. Castellion est l'auteur de la formule « Tuer quelqu'un, ce n'est pas défendre une doctrine, une opinion, c'est tuer quelqu'un. » Mais ce n'est pas de cette citation à laquelle je voulais me référer, encore qu'elle soit toujours bonne à rappeler, mais de la suivante, qui lui fait écho. Je vous cite de mémoire parce que je n'ai pas réussi à la retrouver. « Abandonnons ces appellations de luthérien, calviniste ou papiste, et parons-nous du beau titre de chrétien. » Castellion ne disait pas ça pour relativiser les opinions, au contraire. C'est pour rappeler que l'unité se faisait en Christ et que la liberté d'opinion et de pratique ne remettait pas en cause cette unité, que la liberté en ces matières était fondamentale. L'interpellation de Paul et de Castellion ont certes des points communs, mais elles ont au moins deux différences. À l'époque du dernier, les appellations luthériens, calvinistes ou papistes étaient des insultes dont on qualifiait ses adversaires, tandis que les membres des factions chez les Éphésiens se faisaient un titre de gloire de leur figure tutélaire. « Je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi du Christ !» Et ces dernières revendications, « et moi du Christ », qui constituent la seconde différence et posent un problème aux lecteurs de tous les temps, un très gros problème. En effet, se réclamer du Christ, n'est-ce pas une bonne chose? N'est-ce pas la base de la foi chrétienne? N'est-ce pas justement ce à quoi nous invite l'excellent Sébastien Castellion? Oui, évidemment. Alors que fait cette revendication au milieu de toutes les autres? Les explications embarrassées foisonnent. Beaucoup la sortent de la liste en faisant le Christ de Paul. « Moi, Paul, je suis du Christ. » Ouais. Ou alors, ce qui vient un peu au même, en faisant l'ajout d'un révolté, d'un scribe qui donnerait la bonne réponse. Mais cela ne tient pas. Il nous faut bien entendre que Paul déplore ici l'existence d'au moins quatre factions, dont une se réclame du Christ. Et c'est celle-là qui va nous intéresser. Il est probable qu'ici, Paul fasse référence à ceux qu'il désignera dans la seconde épître sous le vocable ironique d'archi-apôtre. Des gens qui prétendent en quelque sorte avoir accès direct au Christ et donc une connaissance des réalités spirituelles supérieures à celles des apôtres eux-mêmes. Je ne nie pas, au contraire, je l'affirme, que nous puissions tous être en relation avec le Christ. Mais cette relation nous aide à vivre, nous soutient, nous fortifie, nous encourage, nous éclaire. Mais elle ne peut en aucun cas nous donner un enseignement dogmatique incontestable. J'avais bien un camarade d'études qui, lorsqu'il était là d'argumenter face à des contradicteurs armés d'arguments d'autorité, finissait par lâcher « De toute façon, Dieu m'a dit que j'avais raison de penser comme je pense. » Argument d'autorité suprême, fin de la discussion, allez répondre à ça. La différence avec mon ami le faisait en toute connaissance de cause, en toute mauvaise foi. Il savait que son argument était tout pourri, mais qu'il l'utilisait malhonnêtement juste pour faire taire ses interlocuteurs. Or, l'argument d'autorité est un des arguments les plus employés, y compris à notre époque, dans nos églises. « Ah, mais ce verset dit que... Un pape a dit que... Luther, Calvin ou je ne sais qui a dit que... » Et au dehors de l'église, tel professeur de médecine, tel économiste, tel révolutionnaire, tel penseur. Deux choses sur les arguments d'autorité, en matière religieuse ou non d'ailleurs. D'abord, s'assurer que la dite autorité invoquée parle de son sujet. Invoquer Einstein pour parler de la relativité, c'est parfait. Pour justifier une conviction politique, économique, sportive ou religieuse,
ça n'a guère de poids. Et même un expert dans un domaine n'est pas expert dans le domaine voisin, même si à nos yeux de profanes, c'est quand même très proche. Et surtout, même un expert, même très intelligent, même reconnu, peut dire des âneries. Il n'y a pas d'exemple connu de personne qui ne se soit pas trompée, qui n'ait pas dit de bêtises. De plus, je suis persuadé que la plupart des chefs de file, il y a hélas des exceptions, le sont malgré eux et peinent à se reconnaître dans leurs disciples autoproclamés. Dans la préface du livre « La pensée de Karl Barth », on pouvait lire la phrase suivante « S'il existe des Barthiens, qu'on veuille bien ne pas me compter parmi eux. » Et c'était signé, vous l'avez deviné, Karl Barth. Mais revenons à notre argument. Je suis de Christ. Il est d'abord blasphématoire puisqu'il instrumentalise le Christ pour en faire notre allié contre les autres. Et je place ici l'extrait de l'évangile de Luc. Qui a fait de moi votre juge ou votre arbitre? L'argument est aussi d'une arrogance folle lorsqu'il est employé pour justifier un argument, car il fait fi de tous ceux qui nous précèdent dans la foi, de ce qui nous y a amenés. Que nous le reconnaissions ou non, nous appartenons à une tradition. Et si nous avons rencontré Christ, si nous sommes de Christ, c'est parce que d'autres nous ont ouvert le chemin. Ces autres ne sont pas notre salut. Ce n'est ni Saint-Dominique, ni Luther, ni Calvin, ni le pape François, ni même l'apôtre Paul qui a été crucifié pour notre salut, comme le rappelle l'apôtre. Donc, l'invitation de Paul est double et contradictoire. Nous ne réclamons pas de parti ni directement du Christ. Alors, comment faire? La première chose à faire est de nous débarrasser de l'esprit de parti, c'est-à-dire de la volonté de défendre davantage notre opinion que la vérité, notre groupuscule que la communauté. Ce comportement, hélas trop fréquent en politique, existe aussi en Église, trois fois hélas dans ce cas. Mais tout en confessant que l'on est d'abord chrétien, avant d'être protestant, catholique ou orthodoxe, nous sommes invités à reconnaître et à accepter que nous nous inscrivons dans une tradition humaine qui a eu ses figures tutélaires, qui ne sont pas d'ailleurs toujours exemptes d'erreurs, voire de fautes. Et je parle ici aussi bien des figures tutélaires que des traditions. Pour conclure, à l'issue de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, réjouissons-nous d'appartenir au Christ, seule source de salut pour tous ceux qui se réclament de lui, et d'appartenir à une communauté ecclésiale humaine qui nous permet de partager cette joie, de rencontrer d'autres communautés qui vivent également cette joie, mais différemment de nous. Et surtout, réjouissons-nous de pouvoir nous réjouir ensemble. Amen. Alors on va faire un truc un peu particulier, on va chanter le cantique 36-13, page 510, sur l'ère du 23-07, page 272. Andrea m'a dit, ouais, mais il n'est pas très connu, ton cantique, mais on peut le chanter sur l'autre qui est plus connu. Alors peut-être qu'Andrea, tu vas nous le jouer une première fois, comme ça vous ne serez pas obligé de zapper de l'un à l'autre. Vous l'aurez dans l'oreille. Nous restons debout pour dire ensemble la confession de foi qui porte le numéro 2 dans le petit livret à la fin du recueil. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie, salut. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Je crois qu'il reviendra pendant la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, je crois en Dieu, notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit Saint qui demeure en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par l'Évangile et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Je crois l'Église du Christ, secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que tous les humains sont liés à Jésus-Christ. Je crois que le royaume de Dieu est notre espérance commune. Amen. Et nous chantons, je retrouve,
Nous marchons vers l'unité, cantique 36-18, page 516. 516, 36-18. Prenez place. Je n'offrirai pas au Seigneur des sacrifices qui ne me coûtent rien. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est maintenant le moment du don, le temps de l'offrande. Seigneur, Reçois favorablement ce signe de notre reconnaissance. Nous l'offrons pour ta gloire et pour le service de nos sœurs et frères. Quelques nouvelles, annonces. Nicolas, va très bien.
Alors, pour les annonces, ce que j'ai noté, mais s'il y a d'autres informations à donner, je vous en prie. Donc, le prochain culte famille aura lieu le 1er février. Le prochain culte, dimanche prochain. Oui. Le prochain culte du samedi aura lieu, lui, par contre, dans 15 jours, le 7 février. Jardin biblique, école biblique, catéchisme, le 1er février, le matin. Le groupe de jeunes se réunira le 31 janvier, de 17h à 20h au temple. Catéchisme adulte, le 5 février, en visioconférence. Chorale, comme tous les mardis, mardi prochain à 19h au temple, à 19h15. Temps de prière, c'est le mardi de 7h à 7h30. Parole et prière, le mercredi de 18h à 19h. Pain, parole et partage se réunira samedi 31, donc samedi prochain. Le groupe études bibliques se réunira là, par contre, beaucoup plus tard, dans un mois, le 26 février à 20h au temple. Et Bible et partage, ça sera le 20 février. Enfin, nous avons appris tout récemment le décès de la maman d'Éric Joseph, qui est décédée cette semaine à 103 ans. Je pense que beaucoup d'entre nous connaissaient Éric et connaissaient sa maman aussi. Je crois que les annonces sont faites. S'il y a d'autres annonces à faire...
Si, bon, quand même. Il y a un bien de l'amitié quand même. Ah, c'est moi tout de suite, la réputation. Et...
Donc, vous êtes attendu tout à l'heure, le temps que ça se mette en place quand même, un petit verre de l'amitié dans le hall du temple. Oui ?
J'ai juste à transmettre le bonjour des Repentins. Vous salue à tous.
Oui. Donc, Monique et Pierre Repentin, vous transmettent leurs salutations. Alors, c'est maintenant le temps de la prière d'intercession, d'intercession ou universelle. Et ce temps sera multiconfessionnel. Et je vous invite.
L'idée, c'est à moitié.
À la moitié.
Alors, plus personne n'est là. Les hommes là-bas.
Non.
Ah ouais, non, mais avant, on peut décider. Comme ça, pas très bien.
Seigneur Jésus, ensemble, nous confions à ton amour nos communautés, notre diocèse, notre consistoire, tous les baptisés et les catéchumènes, les prêtres, les pasteurs, les diacres, les consacrés, les prédicateurs et catéchètes laïcs, toutes nos familles, tous ceux qui cherchent Dieu, garde-nous dans ton amitié. Hors de toi, nous ne pouvons rien faire.
Seigneur Jésus, ravive en nous l'amour. Fais de nous des artisans de paix et d'unité. Guéris nos cœurs blessés. Délivre-nous de l'inquiétude et de la peur. Rends nos cœurs semblables aux tiens.
Seigneur Jésus, accorde à nos communautés d'être des lieux de miséricorde. Délivre-nous de toute forme d'indifférence. Que nos vies, nos relations, nos paroles, nos pensées, nos actions manifestent la tendresse et la bonté du Père.
Seigneur Jésus, répands la miséricorde sur tous les habitants de notre diocèse et de notre consistoire. Manifeste-toi à ceux qui te cherchent. Apaise ceux qui sont tentés par la violence. Console ceux qui sont dans la détresse.
Donne-nous des prêtres, des pasteurs, selon ton cœur. Donne-nous des consacrés, des laïcs, témoins de la joie. Donne-nous des familles rayonnantes de charité. Fais de nous des missionnaires de la bonté.
Jésus, donne la paix au monde. Jésus, nous avons confiance en toi.
Amen.
Et c'est en ton nom que nous disons notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Et nous chanterons après le dernier cantique,
le 62-81, que la grâce de Dieu soit sur toi. Vivez en paix entre vous, donnez du courage à ceux qui en ont peu, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Allez en paix. Amen. Amen. Dimanche à tous.
Bon dimanche.
On appelle le chant Walt Disney.